Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
Dudes, you guys are gonna go back in time.
Ladies and gentlemen.
10, 9.
Dr. M presents.
6, 5, 4, 3.
Classics
two,
time machine.
1, 0. All engine running.
On Radio Santa Freak.
Bonsoir la planète et bienvenue en direct ce soir dans ce 12e numéro de Classics Time Machine, votre rendez-vous mensuel pour remonter le temps en musique et en archives d'époque façon voyage radio-temporel. Je suis le Dr M, M comme ma boule, ça fait du bien d'être de retour derrière le micro après 2 mois d'absence, mais je suis toujours en poste et je vous emmène comme à l'accoutumée à bord de la Classics Time Machine pour 1 heure de Madeleine de Proust à travers les années 1967 et 1985 en 1 heure chrono. Installez-vous confortablement, détachez vos ceintures, enlevez vos chaussures le temps que je programme le GPS. S'entend dire que si je m'en parlais comme les Belges, ça ne va pas aller. Hein. Le temps que je programme le GPS temporel donc. Et c'est parti, on ouvre le vortex spatio-temporel.
Vous êtes en 1967.
Et voilà, comme toujours, un atterrissage sans faute du Dr M et sa machine. Nous voilà donc en cette trépidante année 1967. Petit rappel historique pour commencer, en 1967, la guerre des 6 jours commençait et prenait fin presque aussitôt entre Israël et ses pays voisins arabes. La télévision en couleur faisait son entrée en France et les manifestations aux USA contre la guerre du Vietnam commençaient à prendre une ampleur jamais vue. 1967, c'était culturellement parlant l'année du triomphe du cinéma Nouvelle Vague avec cette palme d'or pour Michelangelo Antonioni et son film Blow Up remporté à Cannes. C'est aussi une année où le son du Swing in London était bien ancré sur les ondes des transistors, mais on voyait monter la concurrence implacable du rock psychédélique et du mouvement hippie sur fond de sex, drugs and rock and roll. Et puisque justement on en parle, premier arrêt de notre voyage radio-temporel à San Francisco, vous écoutez Classics Time Machine avec le Dr M et vous êtes sur Radio Saint-Afrique.
We tell young people today, drop out of school, because schools, education today, is the worst narcotic drug of all. Don't politic, don't vote, these are old men's games, impotent and senile old men that want to put you onto their old chess games of war and power. Drop out. Tune in with natural things. Take off your shoes. Get back in tune with God's harmony. Surround yourself with beauty and sacred objects.
It was the largest migration of young people in the history of America. From every direction they came. From the biggest cities and from the smallest towns. All bound for San Francisco in the summer of 1967.
100,000 is a minimum estimate of what's happening. I think it's be a major historical event for this country.
We are trying to do what no one else has ever done before in this culture, and that is to find a new way for humanity.
Minds are up for grabs. It's up for grabs. Civilization's up for grabs. I think everybody knows it.
Turn on, tune in, rock out.
The Summer of Love, ce phénomène socioculturel sans précédent s'est produit au cours de l'été 1967 et fit converger vers la ville californienne de San Francisco des centaines de milliers de jeunes Américains, lassés du conformisme de l'Amérique conservatrice, puritaine et ségrégationniste, pour y prêcher l'amour, l'éveil des sens et l'expérimentation psychédélique sous le slogan Turn on, tune in and drop out, intraduisible littéralement en français, mais qu'on pourrait définir par prenez des drogues, ouvrez vos sens et quittez le système. Le cœur de leur rassemblement se situait au croisement des rues Haight et Ashbury, où des concepts de lieux nouveaux virent le jour. Les coffee shops où l'on pouvait dialoguer, lire ou flirter tout en fumant de la marijuana. Les galeries d'art où on pouvait s'exprimer de toutes les façons possibles, même en y faisant l'amour. Ou encore les free shops, ces magasins où tout était gratuit. Dans un contexte social très tendu dans le pays, en proie depuis des années à des violences et émeutes raciales sans précédent, avec la guerre du Vietnam en fond d'écran et dans un contexte mondial de guerre froide et de tensions atomiques, ces jeunes refusent la violence et font de l'être humain un être universel, peu importe sa couleur, son sexe ou son âge. Ici, au départ principalement du mouvement étudiant, les gens les désignent sous l'appellation de junior hipsters, qu'on simplifie par le mot hippie. Mais bien sûr, toute cette convergence de gens et de mœurs libérées s'accompagnèrent d'excès et les médias contribuèrent à véhiculer et à cultiver l'image du hippie drogué, ne voulant rien faire pour son pays ou pour son propre avenir. Néanmoins, The Summer of Love ne pouvait plus être stoppé et ce mouvement et sa philosophie de rejet du monde classique, du travail, de la violence, de la politique et de l'argent, sa volonté de créer par lui-même un genre humain nouveau, séduit des jeunes occidentaux d'Amérique et d'Europe et eut un réel impact sur la société dans les années suivantes. Et pour revivre en musique cet été ensoleillé de 1967, je n'ai pas choisi par hasard de vous passer l'hymne hippie de Scott McKenzie, San Francisco, composé en 1967 pour évoquer cet événement merveilleux du Summer of Love. McKenzie y parle de cette foule diverse venue célébrer l'amour et prôner une société nouvelle en arpentant les rues de la ville. Il dit à ceux qui d'aventure voulaient se mettre en partance vers l'ouest, « Si vous allez à San Francisco, vous y rencontrerez des gens doux, alors mettez des fleurs dans votre chevelure. » Tout de suite sur Radio Saint-Afrique, Scott McKenzie, San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. C'était en 67 et c'est sur Classics Time Machine, The Gentle Sound of Flower Power.
If you're going to San Francisco,
encore un peu de musique sur Classics Time Machine avec le Dr M, car le 2 juin 1967 sortait dans le monde entier un album qui allait renverser la tendance en faveur du rock et de la pop psychédélique, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band du génialissime groupe britannique The Beatles. Il s'agissait en fait de leur 8e album studio et ce fut celui qui consacra le virage musical du groupe, délaissant la pop fleur bleue pour aborder les rivages lointains de la musique rock conceptuelle et créative. Sgt. Pepper est un des albums les plus marquants de toute l'histoire du XXe siècle car il était un signe de renouveau et de mutation du rock'n'roll avec l'air du temps, sous les influences du mysticisme hindou et des drogues psychotropes. Avant même l'explosion du Summer of Love, les Beatles réussirent à prouver qu'ils étaient plus que jamais dans l'air du temps, anticipant toujours sur leurs concurrents et prouvant qu'ils avaient toujours un train d'avance. Il y a dans cet album tant de pépites, de monuments que vous avez déjà tous entendus, mais j'ai choisi un titre moins connu mais éblouissant de créativité et illustrant parfaitement ce que pouvait être la pop psychédélique. Being for the Benefit of Mr. Kite est un titre composé par John Lennon qui venait d'acheter chez un antiquaire une affiche de 1843 annonçant la tenue d'un spectacle de cirque à Londres du grand forain Pablo Flanquet au bénéfice de la veuve du célèbre acrobate Mr. Kite. Pour les paroles, Lennon n'a fait que transcrire littéralement le texte de l'affiche qui appelle la population à ne pas rater ce spectacle grandiose et impressionnant à renfort de tigres, de cercles de feu, de trampolines et de chevaux dansants. Pour la musique, Lennon choisit une aquarelle de son carnavalesque, précisant à son producteur qu'il voulait pouvoir être capable de sentir l'odeur de la sciure de bois sur la piste du cirque. Le résultat est plus que réussi, et je vous laisse vous faire bercer par les volutes délirantes et mystérieuses de Being for the Benefit of Mr. Kite, The Beatles, extrait de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sorti en 1967. Vous écoutez Classics Time Machine, Dr. M's Amazing Psychedelic Experience sur Radio Centrafrique.
Show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Bank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Ding being some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill.
Nine top Negro athletes meet with Cassius Clay to discuss his anti-draft stand. They include Bill Russell, Lou Alcindor, and former pro footballer Jimmy Brown. Says Brown after the meeting, the champ is sincere in his religious beliefs. He believes in his religion, and his stand is based wholly on that. Clay's induction refusal cost him his title, and he faces a possible 5-year prison sentence. He claims exemption as a minister of the black Muslim faith.
Immediately thereafter, he walked into the teeth of a monumental decision. He was drafted, and then he refused induction on the grounds of his religious convictions on war.
My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality. What, I'm going to shoot them for what? How am I going to shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? I'll just take me to jail.
While fighting imprisonment for his stand, Ali was also stripped of his title, denied a license to fight in the United States, and denied a visa to go overseas to fight.
La désobéissance de Mohamed Ali, ou quand un champion du monde de boxe part au combat contre l'armée des États-Unis. Un an auparavant, Mohamed Ali, qui se prénommait avant sa conversion à l'islam Cassius Clay, avait reçu, comme de nombreux jeunes Américains, un ordre de mobilisation pour partir se battre au Vietnam. À cette époque, la guerre du Vietnam commençait tout juste à devenir particulièrement impopulaire auprès d'un large public, mais elle l'était depuis très longtemps auprès des jeunes noirs et latinos qui étaient envoyés au front en bien plus grand nombre que leurs camarades blancs. C'était dû à une méthode de sélection des troupes mise en place par l'armée des USA pour optimiser les profils sur des critères physiques, psychologiques et socio-économiques. Ce dernier point fit en sorte que les jeunes des classes défavorisées étaient envoyés en premier vers le Vietnam. Ali, qui était très engagé, était bien conscient de ce manège, mais se rendit quand même, en avril 67, à sa convocation. Lorsque les officiers appelaient les recrues par leur nom, ils devaient s'avancer de trois pas et signer leur ordre d'incorporation. Ali refusa par trois fois de bouger un orteil et fut arrêté sur le champ et placé quelques jours en détention. À sa sortie de prison, il déclara à une foule de journalistes « Pourquoi irais-je tuer des Vietnamiens qui ne m'ont jamais rien fait? Les Vietcong ne m'ont jamais traité de nègre, ils n'ont jamais voulu me lyncher ou lancer leur chien sur moi. Ils ne veulent pas me priver de mes droits civiques, je n'irai pas au Vietnam et si ça ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à me jeter en prison. » Ali fut traité de lâche, de honte de la nation, de sportif privilégié profitant de son statut de champion du monde de boxe pour se défiler. Un procès hyper médiatisé fut mis en place et expédié en quelques jours. Le jury ne mit que 21 minutes pour délibérer. Ali fut reconnu coupable, condamné à 10 000 dollars d'amende, à 5 ans d'emprisonnement. Il fut démis de son titre de champion du monde et privé de licence de boxe, ce qui le mettait au chômage technique immédiatement. Il fallait faire vite un exemple et en frappant un de ses plus grands champions, les USA voulaient dissuader d'autres objecteurs de conscience à suivre les pas d'Ali. En faisant appel du jugement, il parvint à échapper à l'emprisonnement, mais fut privé de ring jusqu'en 1971, quand la Cour suprême lui donna enfin raison et lui rendit sa licence et ses titres. Pour ses meilleures années de carrière sportive perdues, Ali ne percevra aucune compensation. Allez, un peu de musique pour revivre cette année 67, avec un titre de Nino Ferrer dans lequel je me suis toujours un peu retrouvé. Un de ses plus grands succès, probablement dû au solo d'orgue Hammond endiablé, et au rythme frénétique de la chanson, je laisse le soin à Nino de annoncer le titre.
Oh, hé, hein, bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Où est mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Mon sirop, ma camomille, ma potion, mon cachet, mes piqûres et mon bonnet. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Qu'est-ce que j'ai fait des paroles de cette satanée chanson? Je les ai oubliées, elles doivent être à la maison. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Oh, la 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 la.
Esta fotografía empezamos a tener ya un poco más la convicción de que la noticia podía...
Cuba est en deuil. Le 15 octobre, après une semaine d'hésitation, Fidel Castro convoquait une conférence de presse dans un studio de télévision à La Havane. Avec des sanglots dans la voix, il déclarait « Les nouvelles sur la mort du commandant Ernesto Guevara sont douloureusement vraies. Et pendant plus de 2 heures, montrant des photographies, analysant les dépêches des agences, rappelant les cicatrices que portait le Che, il allait accumuler les preuves, balayer les moindres doutes. Comme si, pris dans un cauchemar, il ressentait le besoin de convaincre son peuple et lui-même de la mère réalité.
Cependant, à La Paz, les observateurs relèvent certaines contradictions dans les déclarations officielles concernant la mort de Che Guevara. Une version indique que le Che aurait été tué dimanche au cours d'un accrochage entre guérilleros et forces régulières boliviennes. Selon une autre version, il aurait été blessé et fait prisonnier dimanche et il serait mort le lendemain après un interrogatoire au cours duquel il aurait révélé son identité. Tout cela est confus, mais malgré l'incrédulité générale, cette fois, l'erreur paraît exclue.
C'est le 9 octobre 1967 que le révolutionnaire argentin Ernesto Guevara, connu sous le nom de Che, fut abattu par l'armée bolivienne. Fidèle à son idéal de révolution mondiale, il avait depuis plusieurs années quitté le sol cubain pour inciter des groupes rebelles du monde entier à renverser le pouvoir en place et installer sur leur sol un gouvernement révolutionnaire populaire. En Bolivie, il fut dénoncé et tomba dans une embuscade dans les montagnes du pays. Blessé, il fut fait prisonnier, puis exécuté 2 jours plus tard sur ordre du président dictateur René Barrientos, très probablement conseillé par l'ancien criminel nazi Klaus Barbie. En voyant la mort du Che, c'est tous les services secrets occidentaux et les alliés des USA qui poussèrent un ouf de soulagement. Avec son charisme, ses convictions humanistes et son allure de romantique combattant de la liberté, il fut l'inspiration de très nombreux jeunes idéalistes du monde entier. L'ironie, c'est qu'en tuant le Che, les contre-révolutionnaires contribuèrent à faire de lui un martyr de la cause, alimentant le culte de l'idéaliste assassiné par les agents des puissances dominant le monde. Puis avec le temps, même si le Che reste pour beaucoup de personnes une figure de la lutte des peuples, il faut avouer qu'il est devenu aussi, malgré lui, une précieuse icône mercantile, et on ne compte plus le nombre d'objets et de vêtements à son effigie, vendus parfois même dans des chaînes de magasins dont je ne citerai pas le nom, les plus capitalistes qui soient. Comme disait le chanteur des Clash Joe Strummer, les idéaux meurent petit à petit quand les marchands réussissent à transformer la rébellion en argent. Bon, un peu de musique, tiens, ça nous changera les idées et on va s'écouter une perle country blues comme on n'en fait plus. Je parle du magnifique Ode to Billy Joe par la suave et mystérieuse chanteuse Bobby Gentry. La chanson, chantée par la Belle du Mississippi en 67, dépeint une scène de vie dans le sud des États-Unis, dans une famille de paysans où, sur la pause de midi, on se retrouve à table pour partager un repas et en parlant de la nouvelle qui vient de tomber. Ce matin, le jeune Billy Joe s'est jeté du pont Tallahatchie. Les parents et le frère de la narratrice parlent de ce pauvre Billy Joe tout en y mélangeant des propos sur la banalité de la vie quotidienne et sur le repas. Seule la jeune fille ne dit pas un mot et lorsque sa mère l'interroge sur son manque d'appétit, on comprend par une phrase en aparté que, rongée de remords, elle n'ose dire que le malheureux garçon s'est jeté du pont car elle l'avait éconduit la veille. La simplicité de la mélodie combinée à l'efficacité des paroles de la chanson, uniquement constituée de dialogues comme une véritable pièce de théâtre, et la voix sensuelle de Bobby Gentry rendent ce titre absolument parfait. Et le premier qui me parle de la reprise de la chanson par Joe Dassin, je le renvoie par la faille temporelle en 1996, écouter les Spice Girls en boucle. Here it goes, some classic country blues for y'all. It's Bobby Gentry, Ode to Billy Joe on Classics Time Machine, the radio show that's nice and warm like the hot summer breeze.
June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. And Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense, pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge. And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge and drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge.
Forever me.
Forever.
N'avait pas eu encore l'occasion de lui rendre hommage lorsqu'elle s'est éteinte le 16 août de l'année dernière, la grande diva de Queen of Soul, Aretha Franklin, qui enregistra en décembre 67 ce merveilleux single I Say a Little Prayer, composé pour elle par le grand Burt Bacharach. C'est chose faite sur Classics Time Machine, je n'ai qu'un mot à lui dire, R-E-S-P-E-C-T, respect. Changeons d'époque à présent si vous le voulons bien, vous le voulez bien, nous quittons l'année 1967 pour nous diriger vers l'exubérante année 1985. GPS temporel, activez la procédure. Autre temps, autre ambiance, 1985, c'est le cœur des 80s et sociologiquement, technologiquement et culturellement parlant, les 80s sont une période des plus passionnantes qui soit pour la deuxième moitié du 20e siècle et 1985 en est le pilier central. En 1985, le néolibéralisme triomphait sous l'influence de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, tous les deux réélus l'année précédente. On cultive l'image de la gagne, de la performance, du corps sain avec notamment Véronique et Davina qu'on peut voir tous les jours se doucher à la fin de leur émission Tout-tout-tout-you-tou, Gym Tonic. Côté vestimentaire, 1985, c'est le triomphe de l'ostentation. Énormes boucles d'oreilles en plastique et autres bijoux dits fantasy, couleurs vives et surtout l'apparition des gros logos des marques sur les vêtements. Coupe de cheveux à la mode en 85, court devant, long derrière, c'est le mulet qui est introduit cette année-là et fera de tous les Kevin, Jérémy et autres Grégory les caïds de la cour de récré. Côté histoire, Mikhail Gorbatchev est nommé à la tête de l'URSS, le navire de Greenpeace Rainbow Warrior était coulé par les services secrets français en Nouvelle-Zélande, les Restos du Cœur ouvraient pour la première fois leurs portes aux plus démunis. Et sinon, si en 1985 vous allumiez une bonne radio, il y a de fortes chances que vous entendiez alors ceci. Thank you. L'étrange, très étrange même, artiste britannique Kate Bush sortait en 1985 un album art rock qui allait redéfinir le genre. Il s'agit de Hounds of Love, duquel est extrait ce tube Cloud Busting. Vous écoutez Classics Time Machine avec le Dr M et vous avez raison. Alors cette année 1985, côté cinéma, que nous apporta-t-elle? Eh bien, côté film, pas mal, du pas mal et même du très bon, jugez-vous-même. Back to the Future de Robert Zemeckis, un de mes films cultes quand j'étais gamin, et toujours encore assez aussi aujourd'hui, j'avoue. Pale Rider, un brillant western solitaire avec Clint Eastwood. L'excellent mélodrame Out of Africa avec Robert Redford et Meryl Streep. The Color Purple, la couleur pourpre de Steven Spielberg, avec la bouleversante Whoopi Goldberg. Witness, une enquête policière menée par Harrison Ford au cœur de la communauté Amish. Mais quand on est un môme des années 80, il n'y a qu'un seul et unique film de 1985 décidément qui compte.
Hey, petit, tu vas cracher le morceau et nous raconter toute ton histoire.
Toute mon histoire? D'accord, je vais vous la dire. En 9e, j'ai triché à la compo d'histoire et géographie. En 8e, j'ai fauché la moumoute de mon oncle Masque et je l'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la fête de mon cours d'hébreu. Et en 7e, j'ai fait tomber ma sœur Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien. C'est pour ça que ma maman m'a envoyé dans une colo spéciale pour les enfants trop gros. Et alors un jour au déjeuner, j'ai craqué et je me suis goinfré et ils m'ont foutu à la porte.
Mais il commence à me plaire ce gosse, ma.
Appuie sur purée.
Non, je suis trop jeune. Oh. Non, je veux jouer du violon. Pas la main.
Alors tu vas la dire la vérité. Tu vas la dire la vérité.
Que de bons souvenirs avec les Goonies de Richard Donner, mais en fait, c'est même pas vrai, car le véritable bijou du cinéma de 1985, à mon humble avis, c'est ça.
Do you wake from your finest fantasy, only to return to your daily nightmare?
Mr. Walker.
Yes, Mr. Walker.
Is your mother about to look younger than you do? Does the woman of your dreams...
I love you. In my dreams, I love you.
Still have a few doubts? Then it's time to take a stand. To break out of your dull, humdrum life and into Brazil.
You're so pleased you could make it right this way.
It's about flights of fantasy and the nightmare of reality. From Terry Gilliam, director of Time Bandits, Jonathan Pryce.
Sam, what are we going to do with you?
Robert De Niro.
I came into this game for the action, the excitement. Go anywhere, travel light, get in, get out, wherever there's trouble, a man alone.
Catherine Hellman and Michael Palin.
We've always been close, haven't we?
Yes, Jack.
But until this all blows over, just stay away from me.
Brazil. It's only a state of mind.
We're all in it together, kid.
Brazil, c'est un film absolument étrange, délirant, comique et tragique à la fois. Il a été réalisé par l'anglo-américain Terry Gilliam, ancien membre des Monty Python, les Monty Python en français, et nous dépeint une société du futur où la bureaucratie a gagné sur la démocratie. Le monde est une énorme machine à générer, créer et perpétrer de l'administration. Tout le monde vit pour servir, alimenter, augmenter cette machine dans une vie pré-réglée à la minute, à la seconde près. Et c'est un dérèglement causé par un insecte qui se coince dans cette machine qui va bouleverser la vie du fonctionnaire idéal Sam Lowry, interprété par Jonathan Pryce, et le plonger dans le tourment d'un système kafkaïen que combat un mystérieux groupe de résistance dont le chef est un certain Harry Tuttle, incarné par Robert De Niro. Alors je gâcherai vraiment le film en vous en disant plus, car si vous ne l'avez jamais vu, il faut regarder ce film sans trop savoir à quoi s'attendre et vous ne serez vraiment, vraiment pas déçu, croyez-moi. Je vous dirais juste que l'ambiance du film, qui présente un futur complètement déjanté où les riches sont extrêmement riches et le reste des gens hypnotisés par l'omniprésence des écrans autour d'eux, diffusant un flot d'imbécilité et de propagande en continu, et la société en général complètement sous contrôle des autorités et à qui la population progressivement a remis le contrôle de leur vie, me rappelle bizarrement un peu une autre époque. Brésil, une fable futuriste à voir absolument.
trying to do any harm. So look here, I put on the back of my bike and we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast days never turned me on. Something about the clouds and her mixed. She wasn't too bright, but I could tell when she kissed me, she knew how to get a kiss. She wore a raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. Raspberry beret, and if it was worn, she wouldn't wear much more. Raspberry beret, I think I love her. The rain sounds so cool when it hits the bottom roof. You feel like a movie star. This ain't the first time, ain't the greatest, but I tell ya, if I had the chance to do it all again, I wouldn't change a stroke. This baby, I'm the most, but a girl as fine as she was then. Love a raspberry beret, kind you find it, oh no, no.
C'était bien sûr Prince, le petit génie de Minneapolis avec Raspberry Beret, un titre straight out of 1985.
Goedenavond, dames en heren. We onderbreken het normale verloop van onze programma's voor een extra nieuwsuitzending. In Aalst is een roofoverval gepleegd, alweer op een warenhuis van Deleuze. Volgens de 900 van Aalst zouden er zeker 10 doden zijn. De overval gebeurde rond 7:45.
L'inquiétude s'installe en Belgique après le nouveau hold-up sanglant commis hier soir dans un supermarché des environs de Bruxelles. 7 personnes ont été tuées hier soir et la police pense que c'est le même groupe qui a opéré, celui qu'on avait baptisé en 82 les tueurs fous du Brabant.
Chaque fois le même scénario. Masqués, puissamment armés de fusils à pompe, les tueurs fous se précipitent dans le supermarché, tirent sur tout ce qui bouge, raflent la caisse et s'enfuient à bord d'une Golf GTI. Il ne leur a fallu que 4 minutes pour agir hier soir dans ce magasin de la chaîne Deleuze. À 8h moins le quart, juste avant la fermeture, les malfaiteurs ont tiré dans tous les sens. Une famille entière, père, mère et fille, a été tuée. Et puis un homme et sa fillette de 9 ans. Certaines victimes ont été abattues presque à bout portant. Une première patrouille de police est arrivée au moment où les tueurs manœuvraient leur voiture, mais aucun policier n'a tiré sur eux.
Le moment que le meurtrier, normalement, oui. a en arrière, oui. moi, il, arrière, a, il oui. a bien fait. Le police à côté de moi a bien pu être tiré, mais il n'a pas bougé, il est resté comme ça.
Et pourquoi, selon vous, il avait peur à ce moment-là?
Il avait peur, oui. Avec l'homme qui avait une fusil comme ça et l'autre avait une petite arme.
Une véritable psychose s'installe devant la sauvagerie des attaques. Un tel déchaînement de violence pour un butin de 30 000 francs seulement signifie-t-il que ces malfaiteurs tentent plutôt de déstabiliser la Belgique? Le ministre de la Justice n'exclut pas ce soir que ces tueurs de Brabant soient liés à des groupes terroristes.
Depuis 3 ans, une mystérieuse bande de braqueurs a perpétré 21 attaques sanglantes à visage découvert, toujours pour des butins dérisoires, quelques milliers de francs et parfois même des pralines en chocolat dans la région centrale du Brabant. La Belgique, en novembre 1985, a peur. À chaque fois, la police arrive trop tard, les enquêtes piétinent, les indices sont maigres. Puis les braqueurs se radicalisent, attaquent des supermarchés en tirant dans le tas, laissant derrière eux des dizaines de victimes. Et c'est le samedi 9 novembre 1985 qu'a lieu leur pire et dernier braquage lorsqu'ils pénètrent dans le supermarché Deleuze à Alost et font un véritable carnage. Ils prennent la fuite et une voiture de police les prend en chasse. Ils échangent des coups de feu, mais la Golf des braqueurs disparaîtra dans la nuit. Cependant, un des policiers déclare être sûr d'avoir touché un des braqueurs lors de la poursuite. Les tueurs du Brabant s'évaporent et ne font plus jamais reparler d'eux. Si cette affaire passionne la Belgique depuis plus de 30 ans, c'est que l'enquête, elle, est un labyrinthe de contradictions et d'erreurs. Très vite, on soupçonne des groupes d'extrême droite, comme la cellule paramilitaire Gladio, d'être à l'origine probable du gang des tueurs fous du Brabant. Leur but, déstabiliser l'Europe et créer un climat de peur pour porter l'extrême droite au pouvoir. Mais l'enquête ne révélera jamais rien. L'affaire allait être prescrite lorsqu'en 2014, un homme se présente à la police avec un aveu. Son frère, qui vient de mourir, lui a avoué être l'un des tueurs de fous du Brabant. Son métier ? Il était gendarme, membre des troupes d'élite. Son visage est exactement le même que sur le portrait robot réalisé par les enquêteurs 30 ans auparavant. D'un coup, on comprend que la police et les gendarmes ont peut-être eu une bonne raison de faire piétiner l'enquête pour éviter un scandale majeur. Mais le parquet fédéral réagit mollement et encore une fois, l'enquête n'aboutit pas. J'étais en train de vous écrire cet article de l'émission quand il y a un mois, grosse surprise, la police vient d'arrêter en janvier deux anciens enquêteurs du dossier et les a incarcérés. Ils sont fortement soupçonnés d'avoir manipulé, dissimulé et détruit des preuves et des témoignages pendant plus de 25 ans. Si d'après le parquet, leur culpabilité ne fait presque aucun doute, il restera pour la justice à répondre à la question la plus cruciale. 28 morts, 22 blessés et des dizaines de gens traumatisés, pourquoi et sur ordre de qui ? La douce voix de Brian Ferry, le dandy cultivé qui faisait fondre les belles intellectuelles et chanteur du groupe Roxy Music, sortait en 1985 ce titre Slave to Love. Classic Time Machine avec le Dr. M, always in for some sweet lovin'.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entre 15 000 et 25 000 morts, la ville d'Armero, à 200 km de Bogota, en Colombie, est complètement noyée sous la boue depuis hier soir. Une nouvelle coulée de boue tout à l'heure a provoqué la fuite des secouristes. L'origine de la catastrophe, c'est tout simplement le volcan Nevado del Ruiz. Le volcan est entré en éruption depuis quelques semaines. Il a réchauffé les parois montagneuses. Des pilotes qui ont survolé la région parlent ce soir d'apocalypse.
C'est au plus noir de la nuit que des torrents de boue se sont engouffrés dans les rues, dans les maisons de la petite ville d'Armero. Ces images sont les toutes premières qui nous soient parvenues. Elles nous montrent des drames individuels qu'il faut malheureusement imaginer à l'identique, à des milliers d'exemplaires.
Mamá, si me escuchas, yo creo que sí, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano. Adiós, madre.
Une terrible catastrophe naturelle frappe la Colombie ce 13 novembre 1985 lorsque le Nevado del Ruiz, un volcan endormi depuis des centaines d'années, entre en éruption. La catastrophe est l'une des pires du XXe siècle et ravagea toute une région. Elle serait presque tombée dans l'anonymat des innombrables cataclysmes naturels s'il n'y avait pas eu une photo et des images filmées qui allaient faire le tour du monde, celle d'une petite Colombienne de 13 ans, Omaira Sanchez, les jambes coincées sous une chape de béton dans un trou de boue, l'eau sale lui arrivant au ras du menton. Ses yeux noirs, quand elle regardait l'objectif des caméras, étaient remplis de fatigue et de résignation. Elle resta durant 3 jours avec un calme et une dignité qui força l'admiration et la compassion du monde entier. Tout fut tenté pour la sauver, mais sans succès. Les journalistes, vite critiqués pour avoir filmé en direct son calvaire, se sont cependant relayés tour à tour pendant des jours entiers pour tenter de réchauffer la pauvre gamine transie de froid, plongeant dans la boue pour la prendre dans leurs bras, essayant de la réconforter comme ils le pouvaient. Mais les gros moyens n'arrivèrent pas à temps pour la déloger de son piège à cause de la désorganisation totale du gouvernement qui avait pourtant été prévenu en avance par les scientifiques d'une éventualité de la catastrophe. Et la petite Omaira succomba à ses blessures, au froid et à l'épuisement, le tout en direct sur les chaînes de télévision. Elle devint malgré elle le symbole d'une catastrophe et de l'impuissance de la bureaucratie d'un pays à secourir ses habitants.
My way, you never love me. Rain
Sorti cette année 1985, gros tube mondial rempli de synthé, c'était Don't You Forget About Me du groupe écossais Simple Minds. Et c'était immédiatement la dernière étape de notre voyage radio-temporel en cette année 1985. Il est déjà l'heure de repartir vers le futur que l'on appelle notre présent. Bon bah merci d'avoir été branché sur Radio Sainte-Afrique durant ce voyage. Je remercie bien sûr notre fidèle technicien Clément pour son savoir-faire et ses sages paroles. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission, réécouter cette émission et toutes les autres sur notre site www.radiosainteafrique.com, rubrique mensuelle locale, locale musicale décidément. Quant à moi, je vous retrouverai le mois prochain, mercredi 27 mars à 20h, pour une nouvelle aventure historico-musicale dans Classics Time Machine. Merci à vous et entre-temps, bah, aimez-vous les uns les autres et à très bientôt.
C'est The Classics Time Machine. Une émission proposée par Dr. M. A bientôt.
I'll be back.